nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble pour.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Lors du vernissage de l'exposition Sacha Guitry, une vie d'artiste, le 10 octobre 2007, présentée à la Cinémathèque française et réalisée en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France, Canal Académie a rencontré Serge Toubiana, directeur général de la Cinémathèque, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, revue chère au cœur des cinéphiles. Ce jour-là, le public découvrait des photographies de l'artiste Sacha Guitry et de ses proches, mais aussi ses dessins, des lettres, des cadeaux comme cette merveilleuse paire de chaussures à la semelle démesurément longue offerte par Sacha Guitry au clown Little Tish, au dos desquelles, sur l'une est inscrit « From Sacha to Little Tish » et sur l'autre « To Sacha with good wishes from his friend Harry Tish, London, 1922 ». Little Tish était connu pour ses danses burlesques et son fameux numéro de bascule sur ses chaussures dont les semelles dépassaient les 60 cm. Un geste qui signe l'élégance de la courtoisie et la générosité de deux rois de l'amusement. Des rideaux de velours rouge déclinent un parcours d'exposition tout en courbe, où l'œil et l'oreille sont irrémédiablement attirés par les extraits de films, les extraits d'émissions et de spectacles, autant de documents qui éclairent d'un jour nouveau l'œuvre du dramaturge et du cinéaste Sacha Guitry. Ce soir-là, un peu à l'écart des visiteurs, nous avons recueilli les propos de Serge Toubiana.
Monsieur Toubiana, pour vous, quelle est l'actualité de Sacha Guitry ?
L'actualité de Sacha Guitry, c'est son talent et son génie propre qui, moi, à mon avis, est intact, sont intacts. Et à ce titre, moi qui suis cinéphile et qui ai toujours aimé Guitry, mais un peu comme ça, pas de très près, si vous voulez. J'ai aussi beaucoup aimé Guitry parce que des personnes comme Truffaut l'ont dit, si vous voulez, ou l'ont écrit, ou Godard, ou La Nouvelle Vague, ou les Cahiers du cinéma, où j'ai beaucoup travaillé, longtemps travaillé. Guitry faisait partie des cinéastes admirés. Mais là, c'est une autre démarche pour moi. C'est une démarche de connaissance, c'est une démarche, une volonté d'exposer Guitry, de réellement de l'exposer, c'est-à-dire de mettre en scène son patrimoine, son histoire, sa vie d'artiste. Le titre, c'est moi qui l'ai proposé, une vie d'artiste, parce que ce que j'ai découvert grâce au travail de Noël Giré, grâce à la connaissance de Noël Herpe, les deux commissaires de l'exposition de la Cinémathèque, c'est la panoplie Guitry. C'est
toute sa palette. C'est
la palette de ses curiosités, de ses admirations, de ses collections personnelles. C'est un homme dont je découvre qu'il a été, au-delà de son talent d'écrivain, d'auteur, de metteur en scène, d'acteur, tout ce qu'on veut, c'est son esprit. Il y a un esprit Guitry, comme il y a une langue Guitry, quoi. Et je trouve que ça, c'est dans le siècle, il n'y en a pas eu tant que ça, quoi. À ce niveau de générosité, à la fois d'habileté, d'irrévérence, d'insolence, et en même temps de respectabilité, parce que c'est un homme qui avait un rapport avec le public quotidien, direct, entretenu, nourri, fourni, etc. Donc il y a vraiment une posture que je trouve extrêmement impressionnante et qu'il a réussi à maintenir pendant très longtemps, presque un demi-siècle, quoi. En partant de pas grand-chose, puisqu'il est autodidacte, qu'il est formé par lui-même et par son père, parce que je pense que le rôle de Lucien Guitry est essentiel dans la transmission, dans le fait qu'il ait aidé son fils à accéder tout de suite, dès l'enfance, oui, au grand de ce monde, quoi, les amis, les artistes, les grandes figures, etc. Donc tout cela, enfin, c'est à la fois le fils de son père, mais c'est aussi le père de son père, c'est-à-dire qu'il a réinventé aussi son propre père, au théâtre comme au cinéma, le comédien. Il y a une boulimie chez Guitry qui me fascine. Voilà.
Et en quelques mots, l'esprit Guitry dont vous parliez, vous le résumeriez comment ?
D'abord un amour de la langue. La langue comme un monde en soi, comme un véhicule des sentiments, des émotions, des adresses que l'on lance aux femmes, de la provocation, de la joute amoureuse, du défi, du retour sur soi, de l'épanouissement du moi. Il y a toutes les figures rhétoriques sont possibles chez Guitry avec un sentiment de facilité qui est la preuve de son génie, mais aussi une capacité de travail inouïe.
Que l'exposition montre bien, voilà. Parce que justement, on voit l'épaisseur de Guitry, voilà. Au niveau de son travail, ouais. C'est son côté méticuleux, rigoureux, en tout, dans la préparation de ses films, dans les dessins qu'il a faits.
Oui. Bon, le storyboard, les repérages.
Voilà.
Les...
Et en même temps, tel endroit, telle
il y a quelque
place,
chose qui est peut-être émouvant et qui fait.
Budgets.
Il y a quelque chose qui m'émeut aussi, c'est et peut-être qui explique qu'on avait besoin de le réhabiliter, comme vous disiez. C'est, alors après tout, il n'a plus rien à prouver. Mmh. C'est que le fait qu'il ait été un homme de spectacle et qu'il a revendiqué être un homme de spectacle, qu'il jouait au théâtre tous les soirs et que jouant au théâtre, il avait cette relation privilégiée avec le public et comme une espèce de
qui le nourrissait,
mais aussi comme une espèce de gymnastique quotidienne. Mmh. Ça a minoré son talent, ça a minoré son génie, parce que à partir du moment où c'est un homme de spectacle, on considère que les hommes de spectacle, ça n'est jamais que des bouffons. Et cette dimension de la bouffonnerie, elle existe chez Guitry. Mais chez Guitry, elle est extrêmement littéraire, elle est extrêmement stylisée, elle est extrêmement
écrite,
quoi. Ouais. Et quand vous enlevez l'aspect homme de spectacle, il reste l'homme de lettres, l'amoureux des arts, l'ami des artistes, l'admirateur des artistes, le collectionneur des grands peintres, parce qu'il ne s'est pas trop trompé dans ses goûts. Et par ailleurs, c'est un homme de spectacle. Donc il a cette dimension en plus qui, comme on dit maintenant vulgairement, un plus. Mmh. Alors que je pense que pour beaucoup, ça a été quelque chose qui a amoindri son génie propre. Vous voyez ?
On parlait de la langue de Guitry, de la modernité de sa langue. Oui. Comment les générations d'aujourd'hui perçoivent Sacha Guitry, et qu'espérez-vous de cette rétrospective et de cette exposition, puisque Guitry finalement il a traversé le temps.
Bien sûr.
Alors aujourd'hui, comment peut-il être perçu et qu'avez-vous voulu faire?
Moi, ce que j'espère, c'est que à la Cinémathèque, le jeune public qui va venir voir ces films ou les revoir sur grand écran, etc., va être subjugué par la langue, quoi. C'est-à-dire, comment c'était possible de parler comme ça au cinéma ou au théâtre, de s'adresser comme ça aux femmes, d'avoir cette espèce de courtoisie, d'élégance, de séduction, de piquant dans la relation amoureuse, d'insolence, tout en maniant une langue française de beauté. Enfin, bon. Et je pense que les gens vont être à la fois bluffés et ça va leur plaire beaucoup parce qu'ils se disent « mais ça a donc été possible ?» Et au fond, alors je vais peut-être être un peu audacieux, mais je pense que si on prend un Jamel Debbouze, pour prendre un exemple de quelqu'un d'aujourd'hui, de notre temps, de notre langue d'aujourd'hui...
Et de la langue d'aujourd'hui.
Eh ben je pense qu'il peut être totalement subjugué et se sentir, pas en résonance, mais oui, avec Guitry. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui passe. L'amour des mots, l'amour de se mettre dans la position de parler, de s'adresser, de convaincre, de faire rire, de séduire, de jouer la comédie, ben, ça vient de là. Ça vient de chez Guitry, quoi.
Ouais. Eleska, c'était ski, c'est un texto d'aujourd'hui.
C'est un texto d'aujourd'hui. Je pense qu'il aurait été un très, très, très grand textomane, Guitry, oui. Textomane.
Et pour l'image, pour les films de Guitry, est-ce que les générations nouvelles, justement, comment leur œil va percevoir les films de Guitry?
Ça dépend. Moi, je pense
qu'il y a vraiment peut-être un fossé.
Non, je pense pas.
Mais
dans l'œuvre de Guitry, d'abord, il y a plusieurs périodes. Mais je pense que moi, la période que j'aime le plus, c'est les années 35. Alors, je vais jusqu'à Donne-moi tes yeux, qui est de 43. Après, ça reprend. Il y a une période très, très riche encore après. Disons, pour moi, les grandes fresques historiques sont pas ce que je préfère chez Guitry. Oui. Ce qui me touche le plus, moi, c'est Bonne Chance, c'est Le Roman d'un Tricheur, c'est Quadri, c'est Les Perles de la Couronne. Enfin, c'est tout ce cinéma vivant, de la comédie, le Nouveau Testament, j'en oublie, hein. Jusqu'à La Poison, qui est un film très, 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 comme ça, piquant. Et... Non, ce qui me plaît, moi, c'est le Guitry, c'est la comédie française, quoi. C'est l'équivalent en France de ce que les grands Américains faisaient, Capra, Preston Sturges ou d'autres, c'est-à-dire la comédie américaine. Ben chez nous, on a un grand cinéaste de la comédie à la française, c'est-à-dire de la séduction, du vaudeville, du marivaudage, de la tromperie où chacun joue son rôle, les jeux de rôle, si vous voulez, entre l'homme, la femme, l'amant, etc. C'est chez Guitry. Voilà. Donc Guitry, c'est à peu près un exemple assez pur de ce que le cinéma français a fait dans la comédie à la française, aussi avec le côté champagne qu'il y a dans la comédie américaine, et ben c'est aussi fort que ce que les Américains ont fait de mieux dans les années 40. Et pour moi, Jacqueline de Lubac, elle est aussi bien que Catherine Hepburn.
Ouais.
elle est aussi bien, elle est moderne, elle a les cheveux courts. Ouais. Il est subjugué par elle parce que elle est beaucoup plus jeune, mais elle est moderne. Elle est moderne. Et elle lui fait aimer le cinéma parlant, elle lui fait aimer la comédie. Il a envie de la séduire. Bon.
C'est là qu'il bascule vers le cinéma pour vous ?
Oui. Oui. 35, 36, il vient de l'épouser. Mm-hmm. Elle le convainc et elle le convainc sous le meilleur angle possible. C'est-à-dire qu'elle en fait un cinéaste moderne. Et contrairement à ce qu'a dit beaucoup la critique, il n'a pas simplement filmé ses pièces, ce qui serait déjà pas mal. Mm-hmm. Il a fait beaucoup plus que ça.
Il a joué du fait qu'il y avait du théâtre dans ses pièces.
Il a joué, il a filmé le théâtre. Il lui a donné une nouvelle dynamique, un nouveau découpage, un nouveau rythme. Un nouveau suspense. Et de Lubac y a beaucoup contribué parce qu'elle est, fleur. Elle est comme une fleur dans ses films. Elle est le rêve absolu. Elle est le désir pour lui. Et donc, elle l'aide beaucoup pour moi. J'ai confiance sur le fait que les gens de la génération d'aujourd'hui vont voir que c'est un monde en soi. C'est un univers plein de passerelles avec le théâtre, le cinéma, la publicité, la photo, le dessin, le fait que ce type écrivait à des et qu'il avait comme ça une capacité d'admirer les grands artistes du 19e et du début du 20e, qui fait que pour un autodidacte, c'est très important, ce type est autodidacte, il n'a pas son BEPC.
Mais il avait pour professeur les amis de son père qu'à l'école.
Il en a fait quelque chose,
Tristan
il n'a pas
Bernard,
été...
Il aurait Jules pu être... Renard l'ont accompagné sa vie.
Il aurait pu être écrasé par ça.
Par son père et par ce milieu. Mais le milieu l'a aussi un peu porté, il a été fidèle à ceux de chez nous, ceux qu'il appelait ceux de chez nous. Ceux de chez lui, qu'il offre en partage au public, effectivement. Et... aussi en témoignage, je pense qu'il voyait plus haut que le public français, en témoignage à l'humanité, d'avoir effectivement saisi le geste créateur d'un Rodin ou d'un Manet. C'est pour le plaisir de nos yeux, même aujourd'hui, siècle après. Quel document ?
Parce que là, on n'a pas dit, mais à quel point il avait anticipé le rôle de l'image, de la radio et de la télévision.
Oui.
Avant, il avait compris la capacité de la radio et de la télévision d'enregistrer les voix et les corps et de transmettre ailleurs ce que lui faisait sur scène tous les soirs au théâtre. C'est-à-dire qu'il a compris que les médias reproduisaient à l'infini des choses que lui était capable de faire dans son théâtre ou sur un plateau de cinéma. Il a eu une vision moderne des médias tout de suite.
Immédiate.
Et il s'en est servi avec intelligence, ruse, habileté, séduction. C'est ça son génie, quoi.
Dans la rétrospective que présente la Cinémathèque, quel film, quelle perle le public va pouvoir voir qu'il n'a pas vu ?
Les perles de la couronne.
Alors il y a les perles de la couronne, mais...
Vous me tendez une perche ?
Oui, mais il y en a d'autres.
Moi j'aime beaucoup un film que vraiment j'aime beaucoup, Donne-moi tes yeux, qui est un film qui tourne pendant 1942, donc pendant l'occupation, une période où il est... On a souvent beau jeu de dire qu'il était pétainiste, ce qui n'est pas faux sans doute. Mmh. Il était plutôt pour le maréchal, pensant que c'était... Bon, il s'est trompé, mais bon. Mmh. Mais 1942, il fait ce film qui est très émouvant avec Geneviève de Serréville, son épouse, et avec lui-même comme dans le rôle principal, où il est sculpteur. Et on croit que c'est un séducteur, je dirais même un prédateur. Il voit une femme au musée de l'Hôtel de Ville de Paris et... Il veut la séduire, et il la séduit tout de suite. Il veut la sculpter et il fait son buste. Et puis on
là, il y a un dialogue fabuleux aussi.
Magnifique. Il tombe amoureux, elle tombe amoureuse. Et puis à un moment donné, on comprend qu'il se passe quelque chose dans sa vie à lui. Il devient aveugle, il perd la vue. Et il devient odieux avec cette femme pour qu'elle arrête de l'aimer. C'est très émouvant. Il y a une réplique que j'aime beaucoup. Je vais vous faire anglaise.
Oui.
Sous-entendu, je vais vous sculptée anglaise, mais vous êtes aussi anglaise. Donc ça résonne en 42, ça résonne. Et puis cette scène magnifique où ils sortent d'un cabaret et dans Paris la nuit, c'est le couvre-feu et tout est noir et ils marchent avec une lampe de poche et c'est la France qui est dans le noir, c'est la culture française qui est dans le noir. L'occupation, il y a plein de références à ça un peu discrètes et on voit que Guitry est dans le malheur, quoi. Comme le pays est dans le malheur. Et on se trouve, c'est très émouvant, la sensibilité d'un artiste par rapport au temps dans lequel il travaille, par rapport à une atmosphère, par rapport à une situation politique qui est celle que la France subissait avec l'occupation. Et lui, sa manière de résister, entre guillemets, c'est de continuer à faire des films.
À faire ce qu'il a toujours fait.
Voilà, à défendre son métier, son art, et à le faire de la façon la plus noble. Et ça, je trouve que c'est très important.
Ouais. Et au service quand même d'un idéal patrimonial presque.
Bien sûr, mais, oui. Ça, c'est à la fois toute sa force et toute la limite de Guitry. C'est dans un contexte politique où il n'était absolument pas politique et il aurait été incapable de prendre la moindre position politique, ou s'il en prenait, il se trompait.
Ben, il s'est trompé.
Parce que c'était pas son...
C'était pas son truc, on dirait familièrement.
Son mode d'expression, quoi. Ouais. Et là, je trouve qu'il est très, très... Moi, j'aime beaucoup ça. C'est le moment où il est fragile, quoi. Et c'est toujours intéressant de voir comment un artiste, quand il est fragile, réagit et comment sa sensibilité l'aide à pas se tromper, quoi.
Et on va voir le film de Jeanne d'Arc à
Philippe
Pétain.
Oui, on va le voir.
Parce que celui-là, il n'a pas été montré.
C'est un drôle de document.
Et oui.
Très austère, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Oui.
C'est très austère. C'est un film où il feuillette un livre, le livre qu'il a écrit. Et comme une espèce de cérémonial très lugubre, très mortuaire sur la France, le génie français depuis Jeanne d'Arc, qui résiste. Qui résiste par sa. Bon. Et c'est aussi une façon de dire des choses. Et malheureusement, il se trompe de cible parce qu'il va voir le maréchal. C'était pas le moment, ni
c'est pas le moment. Voilà.
Il se trompe complètement.
Et
mais il est naïf. Je veux dire, c'est de la naïveté plus que de la stratégie ou de c'est une espèce de grande naïveté.
Vigilance aussi. Il n'a pas cette vigilance politique. Voilà. C'est pas son truc.
C'est pas un résistant.
C'est pas ça.
Pour moi, ça n'est pas. Ce n'est pas ce que j'appellerais un artiste de la collaboration du tout.
Pourtant, on sait qu'il a aidé à faire sortir.
Il a aidé tous les gens chaque fois qu'on
lui a demandé.
Les amis, la concierge. Voilà. Il aidait quand il faisait son possible avec le pouvoir qui était le sien, d'un homme célèbre, pour aider les amis, les enfants des amis. Etc. C'est-à-dire qu'il y avait
une générosité,
mais pas du tout de calcul politique, ça. Je pense que c'est son point faible, mais pour moi c'est son point fort, voilà.
C'est ce qui en fait cette image aussi qu'aujourd'hui.
C'est qu'on peut pas le figer.
À laquelle on adhère, parce qu'on peut pas justement le figer d'un côté collabo, pas ça. Guitry, c'était pas ça.
Il y a rien qui soit suspect dans ce qu'il a écrit ou dit.
Et pour votre génération, quand avez-vous découvert Guitry? Comment?
Oh, moi, c'est par la cinéphilie cahier du cinéma. Quoi. Quand je vous disais, quand je suis rentré au cahier, il y a 35 ans, un peu plus, j'étais jeune et j'ai vu les films de Guitry les plus connus, Roman d'un tricheur, des choses comme ça. Voilà. Mais je vous dis, honnêtement, j'ai pris la mesure de son talent et de son génie de cinéma plus tard. Et encore, je dirais même maintenant. Parce que là, maintenant, je revois, je fais une conférence sur Guitry. Puis l'expo m'a obligé à travailler quand même. Même si les commissaires étaient très, très compétents, j'ai quand même beaucoup travaillé pour être avec eux, les accompagner, écrire aussi dans le catalogue s'il fallait, etc.
Ouais.
Et j'ai beaucoup appris et j'ai revu les films. Et là, je me dis, mais non, il est pour moi l'égal de Jean Renoir. Ce qui, pour moi, veut dire tout.
Ben, Monsieur Toubiana, merci beaucoup de cette interview.
C'est moi, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et vive Guitry.
Je ne peux pas vous nommer tous. Je ne pourrais pas non plus vous serrer dans mes bras. Mais si vous aimez qu'on vous aime, je vous aime. Et vous aussi, public, qui depuis tant d'années m'avez si bien nourri. Mais voici le gâteau. Je ne dis pas fatal, mais traditionnel. Merci. Que de bougies qui vont s'éteindre. 70 bougies. Ça fait bien 5 étages. Vous me laisserez souffler un peu de temps en temps. Commençant par la fin, soufflons d'abord 10 ans. 1945, 60 ans. Un seul souvenir, l'ANA. 1935, 50 ans, je fais jouer ma 100e pièce. 1925, 40 ans, je vois mon père s'éloigner.
Vous venez d'entendre, grâce à un document d'époque, la voix de Sacha Guitry le jour de ses 70 ans. C'est un extrait sonore qui ouvre l'exposition de la Cinémathèque. C'était un reportage de Canal Académie à la Cinémathèque française le 10 octobre 2007, lors du vernissage de l'exposition Sacha Guitry, une vie d'artiste. L'exposition se déroule du 17 octobre 2007 au 18 février 2008 à la Cinémathèque 51 rue de Bercy dans le 12e arrondissement de Paris et profitez de la rétrospective des films de Sacha Guitry présentés au même endroit bien sûr. la réalisation, Lucien Pénoux.